Alors, ce matin, nous sommes encore dans cette superbe série sur la fin des temps et moi. J'espère que depuis le début de cette série-là, que vous êtes bénis, que vous avez appris des choses, que vous êtes encouragés. Et surtout, ce que j'espère, c'est qu'on vous défie à vous approcher de Jésus comme jamais. Parce que c'est ça l'idée. On ne veut pas juste expliquer les chronologies de la fin, mais on veut élever un peuple de la fin. On veut élever un peuple, une église qui est prête pour le retour de Jésus, qui est prête pour ces moments difficiles, ces moments compliqués, ces moments de tribulation qu'on vit et qu'on va vivre. Et moi, ce que je prie, c'est que le peuple de Dieu, comme jamais, qu'on puisse s'attacher et s'approcher de Jésus. Aujourd'hui, j'embarque dans ce texte-là, dans le texte de 2 Timothée, on va y arriver dans un instant. Mais combien ici vous avez déjà accompagné quelqu'un dans ses derniers moments, vers la mort, vers la fin de sa vie? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais plusieurs d'entre nous, on a vécu des moments comme ça. Certains d'entre vous très, très proches, quelqu'un que vous connaissiez, qui était en fin de vie. Et c'est vraiment spécial comme moment d'accompagner quelqu'un qui s'en va, qui est sur le point de quitter cette terre. Et souvent, lorsque les personnes savent qu'ils sont dans leur dernier jour, leur dernier moment, ce qu'ils disent, ce qu'ils vont prononcer vraiment a une importance primordiale. S'ils sont en santé, si leur tête est encore toute là, ce qu'ils vont dire est vraiment important parce que c'est leur dernière parole. C'est vraiment ce qui reflète ce qui était dans leur cœur, ce qui était dans leur vie. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va lire le texte d'un homme qui nous écrit ses dernières paroles. On va être dans 2 Timothée ce matin, et bien sûr, notre texte de base est dans 2 Timothée 3, mais on va aller ce matin au début du livre de 2 Timothée, et on va voir ensemble un texte formidable où l'apôtre Paul est emprisonné, où l'apôtre Paul est âgé, il écrit à son jeune apprenti Jedi, Timothée, afin que celui-ci prenne la relève du ministère. Et il va lui dire, lui adresser des paroles qui sont puissantes. Et j'aime ça faire ça parfois. Je donne des devoirs à l'Assemblée. Et votre devoir cette semaine, c'est de lire le livre de 2 Timothée. Ça se lit très bien et c'est riche et vous allez être bénis. Donc, prenez le temps cette semaine, quand vous voulez, d'aller lire le livre de 2 Timothée. Et ce matin, on va regarder ensemble le texte de mon message ce matin, c'est les témoins de la fin. Nous sommes appelés à être des témoins de Jésus-Christ dans ces temps qui sont les derniers. Combien vous voulez être un témoin de Jésus dans ces temps qui sont les derniers? Levez la main si c'est quelque chose que vous avez à cœur d'être et à cœur de faire. Donc, on va regarder ensemble à des paroles qui sont puissantes, qui sont intemporelles, mais qui s'adressent aussi au peuple du temps de la fin que nous sommes en ce moment. Et on va lire ensemble à partir de 2 Timothée, le chapitre 1 et le verset 1. « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et c'est une salutation, c'est le début de sa lettre et la façon dont Paul se présente. Je m'arrête un instant sur la façon dont Paul parle de lui-même, la façon qu'il se présente. Il dit « Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Et Paul savait et comprenait qu'il était appelé à annoncer la parole de la vie qui est en Jésus-Christ. C'était clair pour lui. C'était son appel. C'était son mandat. Il a consacré une très grande partie de sa vie à faire cela, à accomplir l'appel qui était sur sa vie de communiquer, de partager, de prêcher et d'annoncer Jésus-Christ. Et je m'arrête là-dessus un instant ce matin parce que j'aimerais nous rappeler à tous que c'est aussi notre appel. Ce n'est pas l'appel seulement du pasteur, du prédicateur, mais c'est l'appel de chaque croyant d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans le texte qu'on voit ici, Paul écrit à Timothée. Et moi, l'image que j'ai ici, c'est comme si Paul est en train de passer le témoin à Timothée pour l'annonce, pour être justement annonciateur de l'Évangile. Paul faisait partie des premiers qui annonçaient l'Évangile avec les autres apôtres, bien sûr, et les autres chrétiens de l'époque. Il faisait partie de cette première génération de chrétiens de l'histoire. Et il y avait ce cœur en Paul de voir une continuité. Vous comprenez ce que je veux dire? Que ce message-là continue, que le message de grâce, de paix, d'amour et d'espoir de Jésus continue. Et lorsque je vois ce texte-là, je vois un Paul qui passe le témoin, qui passe le flambeau. Combien ici vous aimez les Jeux olympiques? Hein, il y en a eu dernièrement. Moi, j'aime bien ça. Et il y a des courses à relais, justement, avec différentes distances, où on court avec un témoin. Hein, ce fameux bâton, et on court une distance où on le passe au suivant, et le suivant récupère le témoin, il récupère le bâton, et il continue la course. Et j'aimerais vous dire que depuis 2000 ans, le témoin de l'Évangile se passe de génération en génération. Depuis 2000 ans, depuis Paul et les autres qui ont passé à Timothée, et Timothée à d'autres, et à travers, depuis 2000 ans, le témoin de l'Évangile se passe de génération en génération. Et aujourd'hui, alors qu'on regarde les signes, on a vu depuis plusieurs semaines, vous pouvez voir aussi en ligne la série de l'Église Nouvelle Vie sur le temps de la fin, on voit plusieurs signes que nous vivons vraiment dans une période spéciale, une période des temps de la fin. Et aujourd'hui, le bâton, le témoin de l'Évangile nous est donné à nous. Il nous est donné à nous. Et moi, ça me touche. Moi, ça me fait réaliser qu'on vit dans un moment important et je veux répondre à l'appel qui est sur ma vie, l'appel d'annoncer l'Évangile. Et mon désir ce matin, c'est que tu puisses toi aussi comprendre que tu fais partie du plan de Dieu, que Dieu t'a appelé toi aussi à annoncer l'Évangile. Je peux t'entendre, amen? C'est ce que je prie. Souvent, on a cette pensée que, oui, mais les autres vont le faire. C'est correct, je ne suis pas obligé de le faire parce que les autres vont le faire. Combien vous avez déjà entendu ou vu ou cette pensée-là? Quelqu'un va s'en occuper, je ne suis pas obligé de le faire. Vous savez, quand on est parent, une des choses qui se passe dans notre maison, c'est que quand tu fais très, très bien le ménage, c'est pas très long que le ménage se défait. Et il y a des parents qui peuvent dire « Amen ». C'est pas long, là, OK? Et des fois, il y a des jouets qui traînent un peu partout chez nous, dans le salon. Et ce que je fais, je prends les jouets et je les mets sur le bord des escaliers qui mènent au sous-sol vers les chambres des enfants. Puis, il me semble que c'est un message quand même clair. Il y a un mouton de jouets, ça t'empêche de descendre pour aller en bas dans le sous-sol. OK? Fait que quand tu vois le mouton de jouets qui est à toi, tes Lego à toi, tu les prends puis tu les amènes dans le sous-sol. Combien vous trouvez que c'est un message qui, quand même clair, tu sais, quand même pas si pire clair. Et c'est pas rare que, en fait, c'est pas rare, c'est toujours, bon, faut pas dire toujours, mais c'est toujours comme ça ou presque, que les enfants, ils enjambent le tas de jouets pour aller dans le sous-sol. Ils voient, là. Leurs yeux, ils fonctionnent, à ce que je sache, là. Ils voient le tas de jouets, mais ils enjambent et ils vont dans le sous-sol. Puis si on veut qu'ils se rendent vraiment dans le sous-sol, ces jouets-là, il faut qu'on insiste, qu'on répète, puis capable de répéter. Tu prends les jouets, tu les amènes en bas. Ouais, mais là, non, mais il n'y a pas de oui, mais là. Tu prends les jouets, tu les amènes en bas, c'est tout. Et souvent, on est comme ça avec le Seigneur. Hein? Il y a une tâche qui nous est confiée. La tâche est comme claire même en plus. Le pasteur te le prêche à chaque semaine, la tâche est écrite clairement dans la Bible. Des fois, ça fait 20 ans qu'on est chrétien, puis la tâche est là, elle est claire, mais souvent, on enjambe la tâche que le Seigneur nous a confiée, puis on dit, oh, mais quelqu'un d'autre va s'en occuper. Dites « ouch » avec moi, là. Dites « ouch ». Le Seigneur t'appelle à saisir que c'est toi qui appelles. Tu n'as pas une exemption, là. Tu n'as pas une exemption. Tu n'es pas exempté de la tâche que Dieu te confie. Ah, mais moi, je suis exempté parce que quoi? Non. Tu n'es pas exempté. Dieu nous appelle tous à annoncer l'Évangile, à porter le message du salut aux gens qui nous entoure. Le témoin que Paul passait à Timothée dans le livre de 2 Timothée, le même témoin, le même évangile, le même message, aujourd'hui, je te le confie. Est-ce que tu vas le prendre? Est-ce que tu l'acceptes ce matin? Ou est-ce que tu fais comme, non, ça ne me tente pas trop? Est-ce que tu le prends ce matin? Est-ce que tu le reçois? Moi, je le prends de tout mon cœur. Pas juste quand je prêche ici, je veux le prendre dans ma vie quotidienne. Je veux être un témoin de Jésus, pas juste auprès de vous, mais auprès des gens que je côtoie dans ma vie en général tout le temps. Et c'est ça, être un témoin, d'être constamment un témoin de Jésus-Christ. On continue aussi au verset 3. Paul va dire, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. » Ça me touche de voir l'affection, l'amour que Paul avait envers Timothée. Il est en prison. Peut-être qu'il, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ses émotions, mais sans doute qu'il devait peut-être se sentir inutile en prison, enchaîné à la fin de sa vie. Mais il priait la nuit, il priait le jour, il priait pour Timothée, il priait pour la relève, il priait pour qu'il y ait quelque chose qui se passe après que lui meure, il priait pour que l'Évangile soit porté par Timothée après que lui soit repris et qu'il décède et qu'il aille auprès du Seigneur. J'aime ce texte. Je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est plein d'amour. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à reprendre le témoin, le flambeau. Alors qu'on vit dans ces temps de la fin, on veut reprendre ce flambeau. Et on arrive au verset 4. Ça dit ceci. « Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. » Quand je lis ce 2 Timothée, là, on voit les émotions de Paul qui sont en fleur de peau. On voit son amour qui transparaît par sa plume, par son écriture. Ça me touche vraiment. Je me rappelle de tes larmes. Je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs, la mère de Superman. Non, la blonde de Superman, Loïs. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. Je m'arrête ici un instant. Wow que Paul ici dit, je me rappelle de ta foi, Timothée, tu as une foi incroyable, tu as une foi qui est sincère, puis je sais, elle vient d'où ta foi. Puis là, il va nommer le nom de sa mère et de sa grand-mère, comme étant deux femmes de foi qui ont contribué à la foi sincère de Timothée. Ça, ce matin, ça me parle. J'en parle, j'ai des frissons. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on puisse être des êtres qui allons transmettre à d'autres. Des mamans, des papas et des grands-parents qui vont transmettre une foi sincère aux plus jeunes. On ne veut pas juste voir des gens prendre le flambeau, mettons, à l'église comme ça, des gens de l'église. On veut aussi transmettre le flambeau et transmettre la foi aux gens de notre famille, à nos enfants. Je m'adresse aux parents un instant, je m'adresse aux grands-parents un instant. Nous avons un rôle à jouer de transmission. Si Timothée a été un homme de Dieu, choisi par Dieu, plein de foi, c'était à cause de la grâce de Dieu, mais c'était aussi parce qu'une maman et une grand-maman se sont investis dans un petit garçon. Êtes-vous là ce matin? Une maman et une grand-maman ont prié, se sont investis, ont communiqué la foi à un jeune homme. Et ça, ça me touche. Ça me parle. Et ce que je prie comme parents, grands-parents, c'est que nous puissions devenir aussi des transmetteurs de foi, des transmetteurs de vérité et de vie. Et bien sûr, l'idée ce matin, ce n'est pas de faire un moment de culpabilité parentale commune. Ce n'est pas ça le but aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a pas de parents parfaits. Moi, le premier, Des fois, on n'est pas parfait. Des fois, on dit des choses qu'on ne devrait pas. On parle trop fort. On ne fait pas des choses qu'on devrait faire, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te dire que tu es un mauvais parent. Je suis en train de te dire, est-ce qu'ensemble, on peut grandir là-dedans? Est-ce qu'on peut grandir dans notre désir de transmettre la foi à nos enfants ou à nos petits-enfants? Vous êtes là? Est-ce qu'on peut grandir? Est-ce qu'on peut devenir des Loïs et des Eunice qui vont transmettre la foi? Ça me parle, ça me touche et je prie que dans ma vie personnelle, que je puisse grandir là-dedans, que je puisse devenir, vous savez, nos enfants vivent dans une société qui est complètement anti-Christ. Ce qui est communiqué, les valeurs communiquées, les principes, il y a des affaires qui sont correctes, là, mais il y a pas mal d'affaires qui ne sont pas correctes. Okay? Il y a pas mal d'affaires qui sont contre la parole de Dieu, contre Jésus, contre la Bible. Et entre vous et moi, ils baignent là-dedans toute la semaine, lorsqu'ils sont à l'école ou peu importe, dans la société. Alors, oui, ici, là, pendant une heure et demie, là, on veut leur donner notre best à vos enfants et à nos enfants, mais il faut aussi que ça se passe à la maison. Il faut aussi qu'en tant que chrétien, qu'on puisse grandir là-dedans, de transmettre la foi à nos enfants et à nos petits-enfants. Est-ce que je peux entendre un amen? Un verset dans la parole de Dieu, dans Deutéronome 6, le verset 4, c'est un des textes centraux de l'Ancien Testament. C'est le Shema Israël. C'est un texte formidable qui dit ceci. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Depuis le début, dans la parole de Dieu, Dieu nous communique qu'il veut qu'on puisse transmettre la foi, la parole de Dieu à nos enfants. Et j'aime ici la façon que c'est écrit. Hein, tu les répéteras à tes enfants. Tous les parents savent ici qu'on répète déjà pas mal à nos enfants. Passe notre vie à répéter à nos enfants. Ramasse tes bas. Ramène ton assiette. On répète, on répète, on répète. Range tes jouets qui sont en haut des escaliers, que tu prends, que tu amènes en bas des escaliers. On répète. Mais on est aussi appelé à répéter la foi, l'amour, la parole de Dieu. Qu'on puisse le faire intentionnellement. Ça dit, tu en parleras quand tu seras chez toi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer ce qui se passe chez nous? On peut tout améliorer ce qui se passe chez nous, là. Soyons francs, là, faites comme ça, faites un oui, si tu es d'accord. On peut tout améliorer ça. Okay, ce qui joue sur nos écrans, comment ça se passe, la musique, etc., etc., l'atmosphère, la façon qu'on se parle les uns les autres. Est-ce qu'on peut grandir là-dedans? Est-ce que notre vie familiale peut de plus en plus transmettre Jésus? Incorporer de la louange, de la prière, une atmosphère de vie, de joie, de légèreté. Ça dit aussi quand tu seras en voyage. Et je fais une parenthèse, mais les vacances en famille ou les voyages peuvent être des super moments pour connecter avec nos enfants. Et je sais que je ne parle pas à tout le monde nécessairement en ce moment. Laissez-moi juste la parenthèse, ça vaut la peine. Je vais revenir après à tout le monde, d'accord? Mais en voyage, il peut y avoir cette connexion, ces moments privilégiés parce qu'on est 24 heures sur 24 ensemble. Oui, il peut y avoir des chicanes de plus aussi, là. Mais il peut y avoir aussi ces moments de connexion. Ça dit, quand tu te coucheras, et le moment du dodo, selon l'âge de votre enfant, c'est sûr que s'il a 24 ans, tu vas peut-être moins aller le border puis faire sa petite prière avec lui. Quoique, lâche-toi-le si tu as envie de le faire. Mais surtout auprès des plus jeunes, le moment du dodo peut être un bon moment. Un moment où on écoute l'enfant, où on prend un temps peut-être pour prier avec lui, pour échanger avec lui, pour connecter avec lui. Et ça dit, quand tu te lèveras, oh, ça c'est pour les matinaux. C'est des familles matinales, good for you, ça peut être un bon moment d'échange aussi. Mais l'idée de la transmission familiale est très profonde dans la Bible Et je pense qu'on a besoin de se réapproprier ça comme chrétiens aujourd'hui, de transmettre à nos enfants et aux gens qui sont autour de nous. Les enfants, ils captent tout de nous. Ils captent nos bons côtés puis nos moins bons côtés. Alors, travaillons sur nous, travaillons sur notre propre vie afin de pouvoir transmettre à notre famille. On continue au verset 6. « C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Ranime la flamme du don de Dieu. Combien cette parole-là résonne dans votre cœur ce matin? Ranime la flamme du don de Dieu. Seigneur, ranime la flamme du don de Dieu dans ma vie. Ça résonne en moi. Je prie que ça résonne en toi. Quand on est chrétien, on a besoin de continuellement raviver la flamme. On n'est pas constamment en feu, c'est pas vrai. On n'est pas constamment passionné pour Jésus, c'est pas vrai. On est des êtres humains, pécheurs. On a besoin d'avoir des moments où on vient devant Dieu et on dit, « Seigneur, ranime la flamme dans ma vie. Ranime la flamme dans mon cœur. » Et l'Église en présentiel, ça fait ça entre autres. Je ne sais pas pour vous, moi ça me fait ça des fois, là. Je viens ici et ça me ranime la flamme en dedans. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble. Et ce matin, je prie que tu puisses ranimer la flamme dans ta vie, dans ton cœur. Ranime la flamme, la passion, l'amour pour Dieu, les dons de Dieu que tu as reçus. Ranime la flamme. Je sais que c'est beaucoup plus simple d'être un chrétien qui a la flamme éteinte dans notre société. C'est plus simple, c'est moins compliqué, c'est plus relax, c'est moins dangereux, c'est plus facile, c'est moins risqué de juste être un chrétien à la flamme éteinte. Parce que quand notre flamme est allumée, ça dérange autour de nous. Le message qu'on porte n'est pas un message populaire. Je vous annonce ceci, ce n'est pas populaire. Le message de l'Évangile, que Jésus est le seul qui peut te sauver. Le mot péché n'est pas un mot populaire, mais nous avons besoin de retrouver la flamme, peu importe l'adversité que ça va causer. Êtes-vous là? Jamais, en tout cas, depuis que je suis jeune, j'ai vu des moments de persécution dans l'Église, mais jamais comme maintenant. C'est comme si maintenant, il y a un mouvement qui se lève et qui s'oppose farouchement à Jésus, à l'Évangile. Et ce n'est pas facile d'être un témoin dans ces temps de la fin. Mais on a besoin de ranimer la flamme. C'est notre appel. C'est le désir de Dieu pour nous, qu'on puisse ranimer la flamme. Vous savez, vous avez peut-être déjà vu ça dans un film. Il y a une grande muraille. Puis là, il y a des gens qui sont un peu partout sur la muraille. Et là, ils veillent, ils regardent au loin pour voir s'il y a un ennemi qui arrive pour faire la guerre. Et tout à coup, il y en a un qui est sur la muraille. Puis là, il observe au loin, puis il voit l'ennemi qui arrive. Et là, il va allumer un feu, il va allumer une torche. Et là, le feu va brûler. Et là, les autres qui sont sur la muraille, qui sont plus loin, qui ne voient pas encore l'ennemi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, eux, à leur tour, allumer le feu. Et là, le feu va se répandre partout sur la muraille. Et dans le temps de le dire, tout le peuple va être prêt à la guerre et va être prêt à accueillir l'ennemi. Vous savez, comme je veux dire, là, d'accueillir l'ennemi, OK? À la guerre, ils sont prêts à la guerre. Si Dieu allume le feu dans ta vie, ce n'est pas juste pour toi qu'il va l'allumer. Tu vas devenir une flamme contagieuse. Ce n'est pas juste pour toi qu'il faut que le feu soit allumé dans ton cœur. C'est parce que lorsque Dieu allume le feu dans ton cœur, ça provoque quelque chose chez les gens qui t'entourent, dans tes enfants, dans ta famille, dans tes collègues de travail, dans les gens que tu rencontres. Il faut que Dieu ranime la flamme en nous, pas juste pour nous, mais pour les autres aussi. Le feu qui se répand, le peuple qui se prépare à la bataille. Aujourd'hui, si ta flamme est éteinte, ou si c'est juste une petite braise qui ne brûle pas fort, c'est le jour pour retrouver la flamme. Parce que c'est pas juste ta vie qui en dépend, c'est la vie des gens qui t'entourent qui en dépend aussi. Amen? Je trouve que c'est une belle image. C'est une belle image. On continue au verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Les trois ingrédients pour être un témoin efficace dans les jours dans lesquels on vit sont les suivants. La force, l'amour et la sagesse. Et les trois sont également importants. Tu as besoin des trois. Tu as besoin de ces trois éléments-là dans ta vie. Certains, vous allez me dire, mais moi, je suis gêné de parler de Jésus. Moi, je suis gêné en général. Je suis quelqu'un qui est introverti. Et j'aimerais te dire, c'est correct. Dieu nous a tous créés différents. Mais tu n'es quand même pas exempté de communiquer l'amour de Jésus aux gens qui t'entourent. Tu vas le faire à ta façon. Tu vas le faire avec le caractère que Dieu t'a donné. C'est bien correct. Mais ce n'est pas parce qu'on est gêné qu'on peut dire, ah, je suis gêné, fait que je ne le ferai pas. Quelqu'un d'autre va le faire. Non, non. Les jouets sont là, ramasse-les. C'est pour toi. C'est pour toi ce que le Seigneur, l'évangélisation. Quand on parle de force ici, on parle de courage, d'audace, d'oser ouvrir la bouche, d'oser être un témoin de Jésus dans un moment où ce n'est pas populaire d'être un témoin de Jésus, d'oser parler. C'est tellement important que le Seigneur nous aide là-dedans. Et là, je m'adresse aux gens de tous les âges. Mais bien sûr que quand on est jeune, à l'adolescence, c'est un moment qui est pas évident d'oser parler. Un moment où on veut être accepté de tous. Quand on s'affiche comme chrétien, on se met en danger. Et ça peut être vrai à tous les âges. Mais d'oser parler, d'oser être un chrétien affiché, c'est extrêmement important. On a besoin de trouver en Jésus, dans l'Esprit de Dieu, cette force, ce courage de parler. Est-ce que je peux entendre un amen? On a besoin également d'amour. Si tu as juste le courage, mais que tu n'as pas d'amour, tu n'es pas sûr si tu devrais parler. Parce que des fois, on parle, puis on manque d'amour, puis qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de que les gens découvrent Jésus, on éloigne les gens de Jésus. Ils sont blessés. Ils sont comme, hey, cette personne-là, elle me repousse. Elle me parle de Jésus, mais c'est repoussant. Avez-vous déjà vu quelqu'un ou vécu une expérience comme ça, où quelqu'un parle de Jésus, puis c'est repoussant? C'est pas supposé. C'est pas supposé être comme ça. C'est pour ça que ça prend le courage, mais qu'on a besoin de l'amour. On a besoin que Dieu renouvelle l'amour dans notre cœur. Quand on parle de flamme, une flamme d'amour pour les gens, on a le courage de parler, mais on les aime. On les aime, on est sincère dans notre amour envers eux. Extrêmement important. On a besoin de cet ingrédient-là. Qu'est-ce que tu dégages? Est-ce que tu dégages cet amour? Si tu ne sais pas si tu dégages de l'amour en général, demande à ta conjointe ou à ton conjoint, ils vont te le dire. Souvent, on se dit ça, là, des affaires plus dindants un peu. Là. Demande à quelqu'un que tu connais, qui est proche de toi. Hey, est-ce que je dégage de l'amour? Puis ça dit, bien, ça dépend des fois. Ou ça dit, ouais, bien, ouais, ça veut dire pas tant. Que le Seigneur nous fasse grandir dans cet amour-là. Le courage, l'amour et la sagesse. S'il vous plaît, n'oublions pas ce troisième mot-là. N'oublions pas la sagesse. Le courage, l'amour. Puis là, on peut manquer de sagesse, puis encore une fois, blesser des gens. Bien sûr, on n'a pas besoin d'être parfait pour parler de Jésus. Allons-y du mieux qu'on peut. Mais qu'on aspire à grandir, que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous transforme, qu'il enlève notre timidité, qu'il enlève nos peurs et qu'il remplace ça par de la force, de l'amour et de la sagesse. On a besoin des trois. On a besoin des trois. Et je vous dirais que les trois peuvent être déficients chez un chrétien. Les trois peuvent manquer. Mais souvent, un des trois qui manque, c'est la sagesse. Hein, combien de fois, je ne donnerai pas de détails, mais j'ai entendu même dernièrement des gens qui m'ont dit, « Hey, quelqu'un de pas chrétien qui me dit, telle personne est chrétienne, elle m'a parlé de Jésus, mais je n'ai vraiment pas aimé ça. Je me suis senti agressé, forcé. Manquait de sagesse. » On a besoin de sagesse. La bonne nouvelle, c'est que Jacques 1,5, ça va apparaître à l'écran. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi et sans douter. Tu manques de sagesse? Pas de problème. Demande-la à Dieu. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Aide-moi à être plus sage dans mes paroles, dans mon approche, parce que ton message d'Évangile a besoin d'être transmis, puis on ne veut pas que ça repousse les gens, on veut que ça attire les gens. Donc, il faut de la sagesse. Proverbe 16, 21. L'homme au cœur sage est appelé intelligent et la douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Oh! La douceur des lèvres augmente la force de persuasion. On aurait tendance à penser, non, la force, si tu tapes sur le clou, là, puis si tu dis, « Hey, toi, là, repends-toi, puis reviens à Jésus », on pense que c'est ça des fois qui va marcher, mais non. La douceur des lèvres augmente la force de persuasion. Et quand on parle de Jésus, qu'est-ce qu'on veut? On veut persuader. On veut convaincre. On veut que les gens découvrent Jésus. Le verset d'après dit ceci, verset 23, « Le cœur du sage rend sa bouche prudente et augmente la force de persuasion sur ses lèvres. » La bouche prudente. Qu'on puisse faire attention quand on parle de Jésus, qu'on puisse veiller sur nos paroles, qu'on puisse demander à Dieu qu'il nous aide avec de la sagesse. C'est un peu comme quand tu fais des crêpes. C'est ça. Non. Si tu mélanges juste du lait et de la farine, il manque quelque chose. Ça va être moins bon un peu. Si tu mélanges juste des œufs et du lait, on appelle ça une omelette, hein? Ou si tu mélanges des œufs et de la farine, il manque encore quelque chose. Tu as besoin des trois. Hein? Tu peux avoir d'autres affaires aussi. Puis je sais qu'on est en 2021. Il y a 1 million de façons de faire des crêpes. Tu peux enlever ci, tu peux mettre ça. Sans gluten, gluten, des bananes à la place de ci, pas de sucre, du sucre. Je sais qu'il y a 1000 façons de faire des crêpes. Mais dans mon temps, hein? Des œufs, du lait puis de la farine, ça fonctionne. Ça fait des bonnes crêpes. Okay? Faut du sirop d'érable, bien sûr. Après, du beurre, bon, j'arrête là. Je sais que ça vous donne faim. Ça, je le vois dans vos yeux. Ils sont même, des crêpes. Mais pour être un témoin efficace de l'Évangile, tu as besoin des trois. Tu as besoin du courage, de force. Tu as besoin de l'amour de Dieu dans ton cœur et de la sagesse de Dieu dans tes paroles. Est-ce que je peux entendre un amen? Je continue. Verset 8. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Ah, c'est tellement beau de Timothée, tellement de richesse, de profondeur. « N'aie pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. » Et une des étapes importantes quand on est un chrétien ou qu'on est un nouveau chrétien, c'est de franchir le mur de la honte. Vous savez, au début, on reçoit Jésus, on est excité, on est content, puis il y a des fois où on est gêné quand même d'en parler. Faites ça, je ne suis pas le seul. On est gêné un peu, c'est comme si on a un petit peu honte, on ne sait pas trop, on a peur de l'opinion de l'autre, on a peur de ce que l'autre va dire. Et c'est extrêmement important que dans votre vie chrétienne, que vous puissiez franchir le mur de la honte, de ne pas avoir honte de Jésus, d'être fier d'être chrétien, de faire votre coming out chrétien. Je suis chrétien, je l'avoue, et je suis fier d'être chrétien. Amen. Et ça prend ça dans nos vies. Si tu n'as pas encore fait ça dans ta vie, tu as besoin de ça dans ta vie. C'est un point tournant pour la croissance de ta vie spirituelle. De ne pas avoir honte, d'être fier de Jésus. Vous connaissez ce texte? Marc 8, 38. « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père et avec les saints anges. » On veut être fier du Seigneur. On veut représenter Jésus. On veut l'aimer. Moi, j'ai vécu ce moment-là, j'arrive à la fin du message, restez avec moi, mais j'étais adolescent, je donnais mon cœur à Jésus, je pleurais, je ne comprenais pas ce qui se passait, je me sentais aimé. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé à l'école secondaire, en secondaire 1. Puis là, c'est la vraie vie, là. On est loin de Luc Dumont avec sa guitare, là. Je te donne mon cœur. Non, c'est plus ça, là. T'es à l'école secondaire. Puis là, il faut que tu te débrouilles. Faut que tu fasses du mieux que tu peux. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ah, rien de spécial. Non, j'allais à l'église le vendredi soir, j'allais à l'église le dimanche matin. Puis le Saint-Esprit qui venait d'habiter en moi me disait, dis-les. Ouh! faut que je le dise. Dans mon cœur, ça répondait oui. Aïe, 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 c'est le mur de la honte, le mur de m'afficher comme chrétien est un mur pas facile à franchir. Et je me rappelle, dans une soirée jeunesse, j'ai pris la décision que je n'aurais plus jamais honte de Jésus, que j'allais être fier d'être chrétien, et ça a changé ma vie. Je me rappelle, j'ai même écrit en liquid paper sur mon agenda vert, « Plus jamais de honte ». Hein? J'aurais pu le retrouver dans une vieille boîte moisie en quelque part. Ça fait longtemps, secondaire 1. Mais à partir de ce jour-là, quand j'ai pris la décision de m'afficher comme chrétien, ma vie a pris un tournant. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà franchi cette étape-là, mais il y en a d'autres que vous êtes rendus là. Vous êtes rendus à « Non, je suis fier. Non, je suis fier d'être chrétien. Je m'affiche comme chrétien. Je ne me cacherai plus. Je ne serai plus un disciple de Jésus agent secret. » Je suis un vrai disciple, mais personne ne le sait. C'est cool, hein? Non, c'est pas cool. Tu es appelé à ce que les gens le sachent autour de toi. J'ai invité les musiciens à avancer, j'arrive à la fin du message. Verset 4, 2 Timothée, plutôt chapitre 4. Verset 1, ça dit, « Pourquoi? C'est pourquoi je t'en supplie devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne, hein, au moment de son retour. » Verset 2, « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. » Combien vous avez déjà été dans une situation où tu aurais pu parler de Jésus, mais ce n'était pas favorable? C'est quand même cliché, ça. Ah, j'aurais pu, mais ah, je ne le sentais pas trop. Hein? Je ne le sentais pas trop. La personne s'est mise à parler d'un autre sujet. Ah, finalement, j'ai laissé faire. Non, le courage. Vas-y. Insiste, avec la sagesse, mais quand même. Favorable ou non? Prêche la parole. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience. Ça prend une pleine patience. Ça, c'est certain. Ça prend de la patience pour être un témoin de Jésus en 2021. Ça ne se passe pas tout le temps de même que la personne là, tombe à genoux et donne sa vie à Jésus. Ça prend de la patience, de la persévérance. Avec un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Et ça, on vit dans un temps comme ça. On vit dans un temps comme ça. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et aujourd'hui, je nous dis, accomplissons la tâche d'un évangéliste. Alors moi, je ne suis pas trop évangéliste. Moi, je suis plus... Non, chacun d'entre nous, c'est notre appel d'être témoin de Jésus. Et il faut à un moment donné ou à un autre, ouvrir la bouche, agir avec amour, avec sagesse et être témoin de Jésus. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, et là on voit des paroles puissantes, pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Moi, je veux dire ça un jour. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Moi, je veux dire ça. Je veux être capable de dire ça dans mes dernières paroles, dans la fin de ma vie. Je veux dire ça. Ma vie n'aurait pas été parfaite, ça c'est certain. Mais je veux pouvoir dire un jour, j'ai combattu le bon combat. Et je veux pas seulement moi dire, mais je prie que vous puissiez vous aussi vous joindre à Paul un jour pour dire ces paroles. Verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Jésus va revenir. Nous vivons dans les temps de la fin. Il y a des récompenses pour les chrétiens, on en reparlera. Mais ce que le Seigneur nous appelle aujourd'hui, c'est de prendre le témoin, le flambeau, de devenir des témoins de l'Évangile en 2021. De devenir ces gens qui allons transmettre autour de nous, transmettre dans notre famille, auprès de nos enfants. J'ai prié ce matin qu'on saisisse le témoin qui a été transmis de génération en génération. Depuis 2000 ans, Paul l'a donné à Timothée et ça a été transmis. Et aujourd'hui, tu peux saisir le témoin et courir la course. On ne sait pas, peut-être que c'est nous qui allons finir la course. On ne sait pas. On connaît les relais de 400 mètres. Puis il y en a quatre fois 100 mètres, ça. Et le dernier, ben lui, il ne court plus parce qu'il franchit la ligne d'arrivée à un moment donné. Ça se peut qu'on ait la dernière génération. Est-ce que tu vas prendre le témoin? Est-ce que tu vas courir la course? Est-ce que tu vas accepter d'être fier de Jésus? D'être fier d'être chrétien? D'oser parler? Est-ce que tu vas prier le Seigneur pour de la force, de l'amour et de la sagesse dans ton évangélisation?